Bonjour, shalom, assalam alaikum, dynamikatan. Nous sommes heureux de nous retrouver dans ce studio en cette journée du mercredi 8 mars 2023, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Que toutes nos intentions, nos pensées à l'endroit de la femme qui est notre mère, notre soeur, notre épouse, notre compagne, notre fille également, etc. Et à vous toutes et à vous tous qui êtes en ligne pour nous écouter sur Canal FM ou les médias partenaires, nous vous saluons. Cette émission est réalisée par le duo Vitogwe Kokou Michel Tomega et Jérôme Dakoucha. Nous allons parler naturellement du 8 mars, également parler santé éducation parce que le journal a paru aujourd'hui, également revenir sur l'Assemblée nationale qui a ouvert sa première session ordinaire au titre de l'année 2023 hier, et également d'autres questions d'actualité que nous allons traiter avec vous. Et comme c'est une tradition, nous démarrons toujours le club de la presse avec une pensée. Et aujourd'hui, c'est une auditrice qui nous recommande cette pensée de Gandhi. Gandhi qui a dit, je le cite, « Appeler les femmes le sexe faible est une diffamation. C'est l'injustice de l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes », a écrit le grand Mahatma Gandhi. Je reprends encore une fois. Appeler les femmes le sexe faible est une diffamation. C'est l'injustice de l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Cette phrase de Mahatma Gandhi, c'est avec ça que nous démarrons cette émission du Club de la Presse de ce mercredi 8 mars 2023. Nous avons promis de recevoir une femme à notre studio tous les jours de cette semaine. Nous avons tenu la promesse lundi et hier. Aujourd'hui, nous en faisons de même avec à nos côtés Madame Colette Adjonyon. Bonjour Madame.
Bonjour Saskaou, bonjour à tous les auditeurs du Canal FM.
Et auditrice s'il vous plaît.
Auditrice, surtout que c'est la journée internationale de la femme aujourd'hui.
Et vous êtes femme.
Ah oui, vous me voyez.
Et heureuse d'être
très
femme.
Très heureuse et très fière d'être femme.
Et bien habillée.
I'm proud to be a woman.
Vous êtes femme drapée dans un pagne tissu femme. Mais vous arborez une belle coiffure de garçon qui vous va très bien, madame.
Mais bien sûr, parce que j'adore être naturel.
Être
vous
simple
savez
et
que
naturel.
La beauté, la nature même est simple et belle.
Eh bien, madame, vous êtes conseillère juridique au ministère délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat. Nous vous recevons en votre qualité de membre du comité de supervision de la deuxième édition de la semaine que votre ministère organise incessamment.
C'est exactement ça. Donc, je suis membre du comité de supervision de l'organisation de la deuxième édition de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il vous souvient qu'en février 2022, le ministère avait organisé la première édition de la semaine de l'ETFP. Donc, nous sommes dans la dynamique de la deuxième édition cette année.
Merci à vous-même et à vos supérieurs, dont le ministre délégué, tous ceux qui ont permis que vous soyez à nos côtés et ce que vous nous aidez à tenir notre pari pour cette semaine. Mercredi, nous parlons santé et éducation naturellement, n'est-ce pas la belle Ozi?
Bonjour Sas, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Oui, nous sommes mercredi, on parlera santé.
Santé et éducation paru aujourd'hui avec beaucoup d'articles intéressants, mais pour la richesse de l'actualité, nous avons juste pris trois que vous allez nous résumer rapidement. Commençons par cet entretien que vous accorde le professeur Didier Koumavi Ekwevi, qui est le président du comité d'organisation du Congrès international d'épidémiologie et de santé publique que notre capitale s'apprête à abriter.
Exactement. Et le Togo va abriter la semaine prochaine un congrès international sur l'épidémiologie. Et nous avons approché le professeur Didier Koumavi-Ekwevi qui nous a donné un focus, un projecteur sur ce congrès international. Vous savez, c'est un cadre d'échange et de réflexion. Et l'Afrique, en particulier le Togo, ne sont pas à l'abri des épidémies, ne sont pas à l'abri des maladies. Et aujourd'hui, on peut parler de la fièvre Lassa, de la COVID-19, des hépatites virales, de
Ebola,
Ebola, choléra, méningite. Et je crois que tout dernièrement, c'est la maladie à virus Marburg. Donc, tous ces acteurs qui interviennent dans la santé publique vont se réunir pour accentuer la lutte et surtout la riposte contre ces maladies et surtout renforcer les systèmes de santé et surtout, au sorti de ce congrès, élaborer une feuille de route. Une feuille de route qui va permettre la surveillance, la coordination et surtout la prévention de ces maladies.
Et je lis dans vos colonnes que d'abord le congrès ce sera du 13 au 16 mars 2023 et ce sera la plus grande manifestation scientifique francophone dans le domaine de l'épidémiologie et de la santé publique. Lomé qui s'apprête à accueillir pas moins de 500 épidémiologistes venus de toutes les parties du monde.
Oui, c'est exact. Ce serait un grand congrès et c'est un congrès international que notre capitale Lomé va abriter.
Eh bien, pourquoi cette conférence Lomé? Quels en sont les objectifs? En quoi ce congrès pourra impacter les actions d'épidémiologie et de santé publique au Togo? La parole est donnée au professeur Didier Koumavi-Ekwevi qui s'est longuement exprimé dans vos colonnes. Abel, nous laissons le soin aux auditeurs de se procurer le journal, de lire l'interview et d'être au même parfum que nous.
Exactement.
Et pendant ce temps, nous glissons à la page 5 où vous nous recommandez 6 recettes, 8 plutôt recettes aux épices. Et c'est pour l'amélioration de nos fonctions digestives, métaboliques, immunitaires et neurologiques.
Exactement. C'est l'article phare de notre parution de ce matin. Et les recettes aux épices pour renforcer la santé intestinale. Vous savez, quand on parle de la bonne santé intestinale, c'est aussi un état de bien-être physique et surtout mental. Parce que l'intestin, c'est comme un deuxième cerveau de l'organisme. Donc, il faut toujours veiller à ce que nous mangeons soit de bonne qualité pour avoir en fait une bonne santé intestinale. Donc, on peut relever dans cet article 3 indicateurs principaux pour montrer que notre santé intestinale va bien. Déjà, si on a une digestion et une absorption intestinale efficace, ça c'est le premier indicateur. Si on est exempt, par exemple, d'une maladie gastro-intestinale, et troisièmement, il faut qu'on veille à un bon équilibre de notre microbiote intestinal, c'est-à-dire la flore intestinale. C'est-à-dire, quand on parle de la flore, c'est toutes ces bactéries, tous ces micro-organismes qui constituent, en fait, l'estomac qui constitue nos intestins. Donc, les épices sont aujourd'hui nos alliés santé. Elles peuvent nous aider à assurer une bonne santé intestinale. Maintenant, est-ce qu'il faut les utiliser, tout est dans l'article.
Merci de nous rappeler que l'intestin, c'est comme notre deuxième cerveau et ces épices qui peuvent vraiment, vraiment améliorer nos fonctions digestives, métaboliques, immunitaires et neurologiques. C'est pas sorcier, les épices. Nous les croisons tous les jours.
On a tant d'épices sur nos marchés, Togo.
Comme la cannelle, comme le cumin,
exactement.
Comme le poivre noir, comme le clou de girofle, comme le curcuma, comme le gingembre. On peut dire, Abel, que le paradis, le bonheur, c'est pas loin, c'est tout à côté.
Tout à côté de nous.
Merci beaucoup. Et on va continuer, terminer avec cet arbre. C'est pas comment l'appeler. C'est un arbre ou bien un arbuste ou bien non, comment?
C'est un arbre.
C'est un arbre. Eh bien, c'est le bananier qui écume nos maisons, nos champs un peu partout. Nous connaissons le fruit. Mais Santé Éducation nous rappelle que Chaque partie du bananier possède des avantages énormes pour la santé. La preuve, vous nous intéressez aujourd'hui aux feuilles de bananier.
Exactement. Est-ce que vous mangez souvent Akman?
C'est Akman que ma mère a préparé et que j'ai pu aller à l'école du CPN jusqu'à l'université.
Ça, c'est juste un exemple que je donne aux éditeurs. Souvent, nos bonnes dames emballent Akman avec quoi?
C'est ce que ma mère a avec fait des feuilles toute de sa bananier. Vie.
Voilà. Donc, nous revenons, faisons un projecteur sur ces feuilles. Elles sont thérapeutiques. Elles sont thérapeutiques. Elles contribuent à réguler la glycémie et surtout à combattre le surpoids ou bien l'obésité. Donc, comment est-ce qu'il faut utiliser les feuilles de bananier? Nous laissons le choix au lecteur. Nous laissons cette occasion au lecteur de voir la recette dans l'article.
Eh bien, les feuilles de bananier bien utilisées selon les recettes que nous recommandons Santé Éducation peuvent aider à contrôler la glycémie et elles peuvent être efficaces contre l'obésité. Mais encore une fois, nous invitons les lecteurs à se conformer scrupuleusement aux recettes que vous nous recommandez.
Exactement.
Merci Abel, mais tu restes à nos côtés pendant que nous accueillons deux de nos confrères. Je sais tout l'effort qu'ils ont fait pour se porter à nos côtés aujourd'hui parce que ce n'est pas aisé, surtout quand on est président de l'Observatoire togolais des médias, l'OTM, et qu'on s'apprête à signer un partenariat d'une certaine importance demain jeudi. On est assez sollicité, n'est-ce pas, Fabrice Patompetchezi?
Oui, bien évidemment, c'est carrément l'ébullition au siège de l'Observatoire togolais des médias. Et je profite de l'occasion pour dire que nous avons aménagé dans un nouveau siège qui se trouve pas très loin de l'ancien. Nous sommes au niveau du quartier qu'on appelle la Flao Gakli, non loin d'une clinique très bien connue dans la zone qui s'appelle clinique Mampedro et puis juste à côté de l'ANPGF. Mm-hmm. Alors c'est là où se trouvent dorénavant les locaux de l'Observatoire togolais des médias. Une information qu'on voudrait bien partager avec nos partenaires. Effectivement, comme vous le dites si bien, l'OTM est sur un projet financé par l'Union européenne, mais c'est un projet que nous exécutions dans un consortium de trois entités. Donc, il y a l'Observatoire togolais des médias qui représente le Togo dans cette entité, et puis il y a l'Institut Panos qui est basé à Dakar et qui est un peu le demandeur principal sur ce projet-là et qui va jouer le rôle, si on peut le dire, d'encadreur dans l'exécution de ce projet. Et puis ensuite, un autre co-demandeur qui est un peu dans le genre. Ça tombe bien, c'est le 8 mars et aujourd'hui, je crois que le combat, c'est de faire toujours de telle sorte qu'il y ait un certain quota en ce qui concerne les femmes dans tout ce que nous faisons parce que nous savons quand même qu'elles ont beaucoup à apporter. Je dirais le monde se repose sur elles. Et comme on le dit très souvent, et l'éducation que nous traînons, nous tenons cette éducation beaucoup plus de nos mamans. Et si la société va mal, en grande partie on l'impute à la femme, raison pour laquelle il faut l'impliquer. Donc la troisième entité c'est un peu qui s'appelle Femmes et Développement, basée également à Dakar. Et le lancement actuel, c'est le contrat est déjà signé. Hein. Et demain, il s'agira juste d'un lancement officiel des activités dans le cadre de ce projet qui va s'étendre sur 3 ans. Alors, c'est un projet qui va faire un peu dans la promotion de la liberté d'expression et des médias et puis aussi protéger les défenseurs des droits de l'homme. Alors, vous savez que donc c'est un projet qui se retrouve à cheval par rapport aux questions liées à la liberté d'expression et également les droits de l'homme, puisqu'en réalité c'est lié, hein. Même nous en tant que journalistes, nous sommes quelque part défenseurs des droits de l'homme également, puisque le premier droit de l'homme, je crois que c'est beaucoup plus la liberté de s'exprimer au moins ça, on n'a pas besoin de débourser de l'argent pour s'exprimer, mais il faut quand même qu'on nous garantisse des libertés qui nous permettent de nous exprimer librement. Donc pendant 3 ans, voilà un peu ce qui va être fait. Ce ne sera pas comme toujours, même s'il y en aura des ateliers comme on a l'habitude de le voir, mais c'est beaucoup plus qu'au terme du projet, on puisse plus ou moins amener les politiques à adhérer à cet objectif-là. Le Togo a quand même un cadre juridique qui garantit les libertés au niveau du Togo, mais ça, comme vous le savez, parfois entre les textes qui existent et la pratique, il peut y avoir un fossé. Donc, c'est de voir dans quelle mesure ces libertés qui sont garanties dans les arsenaux juridiques au niveau du Togo puissent quand même être traduites, ces libertés, bien sûr, puissent être traduites dans la réalité. Il y a une certaine cohérence entre ce qui est écrit et ce qui exerce. Merci. Donc, ça sera un peu le combat
quand
durant les 3 années.
C'est un programme,
oui.
C'est ça?
Oui, oui, c'est un programme, comme je l'ai dit, qui va s'étendre sur 3 ans.
Eh bien, quand il sera lancé officiellement demain,
aura l'occasion d'en parler.
Tu sais, compter sur le club La Presse, oui. Pour qu'on en décline tous les angles.
Tout à fait.
Sylvestre Kwaku-Beni, du journal La Manchette, bonjour.
Oui, bonjour, ça c'est bonjour à tous les fidèles branchés.
Merci pour tout l'effort que vous, les confrères, les personnes ressources, tous les efforts, pour ne pas dire tous les sacrifices que vous consentez pour vous rendre disponible, être à nos côtés. En tout cas, le club La Presse, nous vous en sommes reconnaissants. Et aujourd'hui, ça fait 23 mois que le confrère français Olivier Dubois a été enlevé par des djihadistes au Mali. Il semble qu'il est toujours en vie, mais bientôt 2 ans qu'il est détenu là-bas. Nous ne pouvons pas ne pas avoir une pensée à son endroit. Dans ce contexte où la liberté de presse, même chez nous ici, semble souffrir de quelques coups de griffe, et ce n'est qu'une litote, la preuve depuis dimanche, c'est cette rumeur, cette information qui circule sur la disparition de notre confrère et ami Ferdinand Vincent Haïté, de cette publication du journal L'Alternative. Je rappelle que lui, Ferdinand, son collaborateur Isidore Kouonou, de même que feu le confrère Joël Kossi-Vignon-Ega, ont reçu une citation directe pour comparaître aujourd'hui devant le juge. Bon, Joël, lui, ne sera pas parce qu'il n'est plus de ce monde. Ferdinand Vincent a été porté disparu depuis dimanche. Je ne sais pas si... Alors, je ne suis pas président de l'OTM. Est-ce Isidore Kouonou, lui, s'est présenté devant le juge ce matin?
C'est vrai que je ne suis pas passé par le palais de justice ce matin. Effectivement, comme vous le dites, on le savait et que cette affaire qui avait défrayé un peu la chronique en fin d'année 2022, je crois.
Mm-hmm. 2021.
Oui, oui. Ils étaient libérés. C'est 2021 plutôt.
Oh, 2021.
Oui. 2021, oui. Donc, c'était un peu cette affaire-là, je crois que c'est un peu qui a ressuscité plus ou moins à notre grande surprise parce qu'effectivement, nous, on croyait que c'était terminé, parce que si vous vous souvenez, les confrères avaient été incarcérés dans cette affaire, oui. Puisqu'ils avaient animé une émission sur un média en ligne, qu'on considère comme un réseau social. On ne va pas revenir sur ce débat. Mais il faut dire que moi, j'ai vu Ferdinand pour la dernière fois. Enfin, je ne dis pas pour la dernière fois, parce que je sais que je vais le revoir. On s'est vu... vendredi sur une chaîne consoeur, Taxi FM, où nous avons comme d'habitude animé une émission ensemble les vendredis. J'y étais avec le président du CONAP également qui faisait partie. On a abordé cette question et nous étions surpris d'apprendre quand même que cette affaire est remise au goût du jour et qu'il fallait comparaître ce mercredi. Alors on est sorti de l'émission, on a échangé, on s'est séparé. Et quand déjà dimanche... moi, c'est vrai que moi, j'ai été alerté de cette situation dans la matinée de lundi par un aîné de la corporation qui a dirigé une organisation de presse, notamment le CONAP, à qui je salue au passage parce qu'il nous aide beaucoup dans ce genre de situation. Monsieur Jacques Diakouti, merci pour tout. Alors donc, tout de suite, naturellement, lorsqu'on dit qu'on n'a pas les nouvelles de quelqu'un, la première réaction... c'est naturellement sa famille qui peut attester qu'effectivement on n'a plus de ses nouvelles, puisque ça, en tant qu'ami, je peux ne pas avoir de vos nouvelles toute une journée, mais au moins votre famille biologique et tout cela, vos proches peuvent en avoir. Et là, j'ai tenté de vérifier si effectivement ils n'ont pas. J'ai contacté le rédacteur en chef du journal Alternative que dirigeait Ferdinand. Il m'a dit qu'effectivement il n'avait plus les nouvelles de Ferdinand depuis la matinée de dimanche. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait tout de suite alerter la police, la gendarmerie? Je crois qu'ils étaient dans la logique de au moins donnons encore le temps au temps, comme on le dit, pour voir s'il y aura du nouveau. On en était là, puisque nous avons proposé quelques actions, mais ils nous avaient suggéré d'attendre un peu le temps d'observer. Et nous avons observé toute la journée de lundi, il n'y avait pas du nouveau. Mardi, il fallait attendre peut-être voir dans les kiosques alternatifs qui n'y étaient pas. Mm-hmm. Et donc, aujourd'hui, nous sommes au mercredi. C'est vrai que nous avons, au niveau de l'OTM, fait des démarches, puisque naturellement, pour tout le monde, aujourd'hui, si vous n'avez pas les nouvelles d'un de vos proches et vous êtes inquiète, le premier réflexe, c'est d'informer tout du moins la police ou la gendarmerie. Mm-hmm. Et donc, nous avons échangé en privé avec les autorités en charge de la sécurité, alors qui, quand même, nous ont donné certaines informations par rapport au fait que, effectivement, Ferdinand de Vray avait une convocation sur dimanche après-midi au niveau du SCRIC. Et que c'est dans à partir de la matinée de ce dimanche-là qu'on n'avait plus de ces nouvelles. Donc voilà un peu ce que nous avons reçu du côté des autorités en charge de la sécurité. Alors donc
Ferdinand n'aurait pas, ou bien n'a pas été arrêté par les forces de sécurité publique.
Oui,
à ta connaissance.
Oui, à ma connaissance, selon les informations que j'ai reçues. Oui. Aussi bien du côté de la gendarmerie et même du ministre de la Sécurité avec qui j'ai échangé également sur la question, qui a dit que selon les informations qu'il a reçues des différentes unités, il était attendu le dimanche après-midi à 15h au niveau du SCRIC.
Et il ne s'est pas présenté.
Il ne s'est pas présenté. Et que c'est depuis la matinée, il est sorti de la maison et il n'est pas revenu. Et donc on n'a pas ces nouvelles jusqu'à ce jour. Donc voilà un peu les informations que nous avons eues. Donc du côté de ses proches également, on n'a toujours pas de ces informations. Et bon, c'est un peu cela. Et donc c'est vrai que ça a été des démarches pas officielles, je peux le dire, parce que nous n'avons pas adressé un courrier formel aussi bien au ministre de la Sécurité ou à la gendarmerie pour nous plaindre, parce que, comme je vous le disais, les proches nous avaient suggéré d'attendre un peu pour observer, voir qu'est-ce que ça va donner d'abord. Mais ça ne nous a pas quand même empêché de chercher à comprendre. Maintenant, quelle était la raison de sa convocation stricte? Peut-être qu'il fallait y être pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé, parce que, bon, si je pose cette question, on va me demander de quoi je me mêle. Est-ce que la convocation m'était destinée? Mais le détail qu'il faut retenir, c'est qu'il devrait comparaître ce matin.
À la justice.
Oui, dans l'affaire qui les avait conduits en détention.
Qui les opposait au ministre Adjé et Agbetomé. Et également, d'après nos investigations, nous avons appris que en décembre 2021, ils avaient été libérés, mais ils étaient toujours sous contrôle judiciaire et que la convocation ce matin ne serait que la suite logique du processus judiciaire. Mais revenons à la revue de presse avec le confrère La Dépêche qui s'en inquiète et qui écrit « Journaliste en danger, Ferdinand Haïté aurait disparu. » Liberté également écrit à la page 3 « Ferdinand Haïté, journaliste d'investigation, porté disparu après une curieuse convocation au SCRIC. » Le même Liberté à la page 5 avec une caricature écrite Togo, pas de répit pour la presse critique. Et Liberté revient avec deux articles à la page 3. Musellement de la presse, les médias critiques plus que jamais en danger. Et puis vague d'opérations d'anéantissement des médias critiques au Togo. Voilà la série d'articles sur la disparition de Ferdinand Haïté depuis la matinée du dimanche dernier. Céleste Béni, un petit mot, peut-être une piste à nous indiquer. Où trouver Ferdinand?
Non, vous trouvez Ferdinand, je crois que nous n'avons pas quand même ces compétences-là, telles que le président de l'OTM vient quand même de relater les faits. Donc, je crois qu'il revient, quand même aux autorités togolaises de trouver quand même une issue heureuse à cette affaire et surtout garantir donc l'intégrité physique et morale donc du confrère. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur cette affaire.
Merci. Donc, si quelqu'un a des nouvelles de notre confrère et ami Ferdinand Messanité, prière, nous contacter en direct au Club de la Presse ou bien contacter le président de l'OTM ou tout journaliste ou de préférence la police ou la gendarmerie parce que ce sont ces corps-là qui sont habilités à veiller sur la sécurité de tout citoyen, de toute citoyenne togolaise ou togolais. C'est ce nom, n'est-ce pas, madame Madame Colette Adjonion?
C'est exactement ça, oui.
Eh bien, nous sommes le 8 mars depuis 1975 que cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes a été décrétée. Et aujourd'hui, il y a une certaine abondante littérature dans la presse. La Lanterne, hein, qui nous rappelle que les femmes sont sous le projecteur. Gazelle Info, hein, qui écrit « Encourager les innovations technologiques sensibles aux gens ». Focus Info également, qui à la page 12 nous parle de la journée internationale de la femme avec une société de la place, Vlisco, qui célèbre les petites mains. La Dépêche également écrit que le ministère de l'administration territoriale se dit préoccupé par la conciliation travail-famille. Madame Adjonio, vous en savez quelque chose? Quand on est femme et qu'on travaille, comment arrivez-vous à concilier votre statut de travailleuse avec celui d'autres de famille?
Oui, merci. Je pense que c'est une préoccupation et les femmes en sont conscientes. Ce qui est certain, c'est que les responsabilités ne constituent pas un frein. Les responsabilités professionnelles ne constituent pas un frein ou un obstacle aux responsabilités conjugales, j'allais dire, ou familiales. C'est deux choses parfaitement conciliables. Et j'avoue que je voudrais parler de mon ministère particulièrement, où nous nous retrouvons souvent. J'estime l'année dernière même, la thématique avait porté, la thématique animée par quelqu'un que nous avons invité à porter sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie conjugale. Donc c'est des astuces ou des éléments, des mécanismes à communiquer, ou des outils à communiquer aux femmes ou à partager avec les femmes, de sorte que une femme responsable à la maison soit en mesure et à même d'assurer toutes les responsabilités qu'on lui confiera au service autant que les hommes. Les hommes sont des pères de famille. Et à ce titre-là, elles assument également leurs responsabilités à la maison. Et donc, la femme responsable au service devrait être en mesure d'assurer également ses tâches à la maison. Donc, je pense que normalement, il n'y a pas de problème.
Merci, Madame Colette Adjonio. Le prénom du pays, s'il vous plaît. Moi, c'est Kodjo.
Moi, c'est Akosiwa Kafui.
Akosiwa Kafui, je préfère cela. Akosiwa Kafui Adjonio, vous qui êtes conseillère juridique au ministère délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat. Vous êtes membre du comité de supervision de la deuxième édition de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. S'il y a deuxième édition cette année, c'est qu'il y a eu première édition l'année passée, n'est-ce pas, madame?
Évidemment.
Eh bien, qu'est-ce que vous voulez nous rappeler la philosophie qui est à la base de cette semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle?
Oui, l'année dernière, du 4 au 12 février, le Togo a connu la première édition de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à partir de certains constats. Nous avons constaté, après plusieurs études et diagnostics, que le système semble ne pas être très bien connu. Ce qui fait que, fondamentalement, l'accès des jeunes ou la demande en formation est très faible. Lorsque vous prenez le taux de bachelier, le taux des apprenants en fin de premier cycle, c'est-à-dire après le BEPC, ceux qui accèdent à l'enseignement technique sont en faible proportion. Et nous avons constaté, après un sondage, que c'est parce que le système est soit pas connu du tout ou très peu connu. Et donc, la communication aussi n'était pas faite avec une haute intensité. Donc, alors que l'enseignement technique et la formation professionnelle, les deux concepts sont au cœur du développement économique d'un pays. Et vous savez que le gouvernement a fait sien dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025 des points essentiels par rapport à l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et il y avait des indicateurs. On attendait le ministère sur certains résultats. Donc, pour atteindre ces résultats, et du moins ces objectifs fixés dans la feuille de route gouvernementale, et produire des résultats concrets, il fallait prendre des dispositions pour booster d'abord la visibilité du ministère, communiquer avec le public sur ce que le ministère fait, les offres de formation, etc. Et donc, c'est tout ça qui a sous-tendu l'organisation de la première édition de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle placée sous le thème « Agir ensemble pour une meilleure employabilité des sortants et la digitalisation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ». Ça, c'était le thème de la première édition.
Et donc, maintenant, quand on en vient à la deuxième édition qui est imminente, quel est le thème que vous avez choisi cette année?
Le thème de la deuxième édition, c'est partenariat, enseignement technique et formation professionnelle, secteur privé, gage du développement économique durable. Mm-hmm. Vous savez, c'est la continuité un peu de la première édition et partant du bilan de la première édition qui a été positif, suivant les retours et les sondages par rapport à l'organisation. La première édition a été un succès et les résultats sont là. Aujourd'hui, l'innovation, la créativité et la recherche sont encouragées et chaque apprenant, chaque apprenante, et chaque formateur, chaque formatrice est à l'œuvre pour produire des œuvres et participer également à la deuxième édition. Parce que vous avez vu, à la première édition, il y avait eu des productions d'œuvres qui ont été exposées et primées en fin de compte. Donc, 50 lauréats ont été primés en in fine avec des prix divers et diversifiés, ce qui a encouragé la créativité et l'innovation pour d'autres qui ont vu ça et également pour les apprenants de l'enseignement général. Ça a suscité un engouement, ce qui constituait l'un des objectifs de la première édition, qui est d'augmenter le taux d'accès à l'enseignement technique et surtout encourager les filles à opter pour les filières technologiques agro-civo-pastorales.
Merci. Donc, la deuxième édition, donc vous rappelez le thème encore une fois, s'il vous plaît.
Partenariat, enseignement technique et formation professionnelle, secteur privé, gage du développement économique du Togo.
Et ce sera à partir de quand?
C'est à partir du 9. Donc, le lancement officiel, c'est le 10 mars prochain. Ça démarre demain dans les établissements. C'est le même schéma, en fait, comme l'année dernière. Ça commence au niveau de l'établissement. Les établissements organisent en leur sein leur séance. Après, on monte au niveau préfectoral, la deuxième phase. Après, au niveau régional et, en fin de compte, au niveau national. Donc, à tous ces niveaux-là, il y aura les productions qui seront exposées, examinées par un jury, sélectionnées de bout en bout jusqu'à la phase finale. Et ceux qui seront sélectionnés participeront à la phase finale pour être primés.
Merci. Et vous avez sûrement innové par rapport à la première année. Au-delà du thème, il y a certainement des innovations.
Oui. En fait, l'une des innovations, c'est la créativité. La créativité, les productions et surtout les productions en termes de genre. Ça veut dire l'année dernière, les 50 premiers qui ont été primés, le taux des filles était un peu faible. Mais cette année, nous mettons le projecteur sur les filles, les encourager à ce qu'en phase finale, le taux des filles qui seront en phase finale ou seront primées, nous prions que ce taux-là soit nettement amélioré.
Une forme de discrimination positive.
Positive, voilà, pour encourager vraiment la gente féminine et les apprenantes à faire mieux.
Bien, donc la deuxième édition qui s'ouvre demain avec le lancement officiel le vendredi.
Oui, dit, à Tapamé, sur le nouveau site du lycée d'enseignement technique et professionnel d'Atapamé à Sada.
Et comme vous l'avez dit, ça va commencer graduellement, oui. D'abord dans l'établissement, oui. Et puis au niveau des préfectures, des régions, et puis une forme d'apothéose au niveau national.
Exactement.
Et la phase nationale aura lieu où?
À Lomé, au lycée d'enseignement technique et professionnel de Lomé, dans l'enceinte du lycée d'enseignement technique et professionnel de Lomé, que vous connaissez certainement, à Adido Gomi.
Je passe là-bas au moins deux fois par jour, en venant à la radio, en rentrant chez moi. Merci Madame Adjonion, mais vous restez à nos côtés sur le coup de 12 heures. Si un auditeur voudrait en savoir davantage, hein, vous êtes mieux placé que moi pour alimenter son lampion. Pendant ce temps, Fabrice et Sylvestre, nous rappelons que depuis hier, l'Assemblée nationale a ouvert sa première session ordinaire de l'année 2023. C'est le titre même de plusieurs journaux, dont le Libéral, ouverture de la première session ordinaire de l'année 2023. Togo Matin, qui écrit lui aussi que la première session ordinaire de l'année 2023 officiellement ouverte, et également Gazelle Info, qui nous renseigne que c'est un total de 24 projets de loi qui sont déjà sur la table de l'Assemblée nationale. Mais on a écouté la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Tchégan, qui a dit que, en plus de ces 24 projets de loi, l'Assemblée pourrait être saisie par le gouvernement sur d'autres priorités, à moins que les députés eux-mêmes ne s'auto-saisissent sur des questions qu'ils jugeront importantes. C'est dire que, Sylvestre Béni, les 4 mois à venir seront d'un certain labeur pour nos 91 députés.
Oui, je crois qu'ils reviennent donc des vacances, on peut le dire ainsi, puisque lors donc du passage du gouvernement à l'Assemblée nationale concernant le rapport d'audit, on a vu quand même que c'était une Assemblée nationale un peu clairsemée.
Là, ça avait été une session extraordinaire.
Justement, un peu clairsemée. Donc, avec le retour, hier, nous avons quand même vu que au moins eux tous sont présents.
Mais pas tous quand même, parce qu'il y avait au moins 2 députés femmes qui étaient en mission à l'extérieur.
Il y a dit eux tous sont presque présents, voilà. Donc, on a vu quand même l'ouverture, même il y a eu des corporations qui ont été invitées et tout. Oui. Donc, on espère qu'ils vont quand même mettre donc, beaucoup le cœur au travail pour les 24 projets. Mm-hmm. Il se peut également que au cours donc de ces 4 mois, le gouvernement peut encore introduire, pourquoi pas, un projet de loi, ou que ce soit peut-être un député qui fait une proposition de loi, c'est selon. Donc ils ont quand même beaucoup de travail à faire, c'est leur job, et puis bon, qu'ils le fassent pour la République.
C'est leur job, d'autant plus qu'ils sont dans leur dernière année de législature, ils doivent avoir intérêt à bien clôturer cette année, surtout celles et ceux d'entre eux qui voudraient se représenter, ne serait-ce que montrer, un, à leur formation politique de base, et deux, surtout aux auditeurs, aux électeurs, qu'ils ont fait quelque chose, je présume, qu'ils vont devoir mouiller le maillot. Mais Fabrice, hier, on a quand même noté deux innovations. La première innovation, c'est que l'ouverture solennelle ne s'est pas tenue dans la salle de débat, mais ils ont aménagé une tente pour avoir une plus grande capacité, c'est dans la cour de l'Assemblée. Ça leur a permis d'accueillir, entre autres, visiteurs de marque, entre autres hôtes de marque, autour de 400 étudiants des universités publiques et privées. Et puis surtout, après la cérémonie, Madame Tchégan et certains de ses camarades députés se sont prêtés à un jeu questions-réponses. Ils se sont assis là, ils ont écouté les questions des étudiants auxquelles ils ont répondu. C'est quand même des innovations de taille.
Oui, c'est des innovations, et je crois que cette législature nous a habitués à ce type d'innovation. Vous vous souvenez des précédentes rentrées parlementaires qui se sont délocalisées à l'intérieur du pays, notamment à Accra. Bon, c'est vrai que ça n'a pas plu à tout le monde, mais c'est une innovation quand même. Et hier, ils sont sortis de leur cocon qui semble être sacré pour eux, l'hémicycle. Et comme vous le dites si bien, ils l'ont fait dans un cadre qui leur a permis quand même d'apporter une autre innovation, notamment les étudiants venus de diverses universités, l'ENA et puis d'autres universités, même privées, qui se sont prêtés à un exercice de questions-réponses. Ça aussi, c'était intéressant. Je crois que on ne peut que féliciter cette innovation et souhaiter effectivement, puisqu'en réalité, l'Assemblée nationale, même si elle réside dans un quartier qui ne semble pas accessible à tous les Togolais, or en réalité, ça devrait être le cas. puisque les échanges, normalement, doivent, les débats à l'Assemblée nationale doivent être publics, même retransmis en direct sur la chaîne nationale. Pourquoi pas, tout est une question d'organisation. Mais c'était quand même une très belle initiative de faire venir une entité et comme celle des étudiants et qui se sont un peu familiarisés avec les pratiques parlementaires, ne serait-ce que pour cet instant-là.
Eh bien, Sylvestre, si Mme Tchégan et ses camarades ont commencé à s'ouvrir aux étudiants, on peut espérer que bientôt, ils s'ouvrent également à la presse et organiser une grande conférence de presse au cours de laquelle elle aurait à décliner tout l'agenda de la session. Et ce serait très bien parce que ils sont dans leur cinquième année, mais je n'ai pas vu ou entendu Mme Tchégan ou un député inviter la presse à des conférences de presse, exception faite de Jerry Tama et de Abbas Kaboua. Sinon, ouais. Les autres, même quand vous les approchez, ils disent non merci.
C'est oui, je crois que ce serait la plus grande innovation de l'Assemblée nationale et nous le souhaitons vivement parce que il y a quand même des questions que la presse aurait quand même bien voulu poser au premier responsable de l'Assemblée nationale. Même l'actuel débat, presque finissant, sur le rapport d'audit et tout, ça permettra donc aux professionnels des médias d'avoir d'amples informations ou éclaircissements sur ce fameux rapport et tout. Donc, j'aurais quand même souhaité que cela se fasse. Mais il en reste encore 10 mois, je crois, si on calcule bien. Mm-hmm. Donc, on espère que peut-être avant de partir après cette session, peut-être que la presse aura l'occasion. Et même au-delà de l'Assemblée nationale, j'aurais quand même aussi souhaité, pourquoi pas, que la présidence de la République togolaise aussi puisse également donner cette chance-là.
Nous parlons aujourd'hui de l'Assemblée nationale.
Non, oui, parce que si vous quittez l'Assemblée nationale, il y a juste la présidence.
La présidence parle jusqu'à l'Assemblée.
Non, je vais être gourmand. Sinon,
et en même temps.
Voilà. Si tu permets, je suis d'accord avec Sylvestre. Oui. Parce qu'en réalité, c'est vrai que c'est une initiative que nous saluons. Mais sous d'autres cieux, on voit, ils peuvent aussi se déplacer, aller sur un campus universitaire, prendre un grand amphi, ou permettre aux étudiants de poser des questions. Et de vraies questions, quoi. Parce que généralement, dans ce genre d'exercice, parfois, on a tendance à conditionner ceux qui doivent poser des questions. Mm-hmm. On fixe des limites.
Si on n'écrit pas les questions,
c'est surtout ça qu'il faut. Il faut, si c'est ça, bon, c'est pas la peine. Mais il y a même le président français vient en Afrique. Il va à l'université tchèque en Tadiop de Dakar. Il n'est jamais venu à Lomé, on espère.
Pas encore.
Donc, il va à l'université.
Il est allé également à Ouagadougou.
Oui, c'est le temple du savoir. Les étudiants lui posent des questions. Et je crois que, comme Sylvestre l'a dit, et Adéman même a tenté cet exercice. Bon, même si ça ne s'était pas bien passé.
Il a quand même osé.
Et ça nous a valu ce que...
Eh bien, Madame Tchégan, vous avez rencontré les étudiants, c'est très bien. Mais vous ferez encore mieux en invitant la presse à une grande conférence de presse. Ou si vous trouvez que toute la presse est trop nombreuse, le studio de Canal FM est disposé à vous recevoir, Madame Tchégan, au cours d'un spécial club de la presse. Et vous ne regretterez pas l'exercice là, encore moins nous. Et nous glissons en même temps à la vie politique avec cet acte que le président de la CENI, M. Dago Yabré, le président de la Commission nationale indépendante, la Commission électorale nationale indépendante a posé, à savoir cet arrêté par lequel il a procédé à la nomination des présidents des commissions électorales locales indépendantes CELI. Gazelle Info nous le rappelle, nomination des présidents des CELI, le libéral également, qui écrit consultation électorale de 2023, les présidents des CELI nommés. Togo Matin également nous rappelle cet arrêté de Dago Yabré qui porte nomination des présidents des CELI. Le messager nous rappelle que c'est un total de 56 présidents des CELI qui ont été nommés. La dépêche par cet acte écrit que les présidents des commissions des CELI sont déjà nommés. Et là, c'est les élections régionales et législatives qui se précisent. Même si Liberté il voit plutôt à la page 5, liberté, je me perds un peu dans mes papiers. Oui, liberté à la page 5, ce jour qui écrit casting pour de nouvelles pantalonnades électorales. Pour dire que Sylvestre Béni, chaque fois qu'on évoque les échéances électorales et les actes qui sont pris ici et là, certains prennent juste acte, d'autres y voient déjà des manœuvres de fraude, pour ne pas dire au-delà.
Voilà ce qui fait donc la richesse même d'un pays. Vous savez, vous avez ceux qui pensent que tout se fait bien et qu'on doit continuer, et d'autres qui relèvent quand même quelques insuffisances et tout. Donc cela devait quand même permettre à ce qu'il y ait moins donc de musellement en ce qui concerne donc les médias togolais. Et donc pour les élections, je crois que tout est sur la voie, c'est-à-dire que j'ai même appris qu'il y a déjà un reconditionnement donc des kits qui se fait et tout. Donc ça veut dire que tout est donc en marche pour ces élections là régionales et législatives. Bon, je sais pas si ça se fera séparément ou on va quand même essayer donc de faire les deux élections au même moment,
régionales et législatives,
parce que si on doit le faire séparément, je me dis que ce sera encore assez donc de coûts. Vous savez, depuis 2007 ou 2010, je crois, le Togo finance sur fonds propres les élections. Donc si on doit débourser encore des milliards pour organiser les régionales et après d'autres milliards pour organiser les législatives, je me dis que ce sera encore beaucoup donc d'argent. Et donc il faudrait quand même que les autorités pensent, s'ils le veulent, donc à ce que ces deux élections-là se fassent au même moment. Mais bon, d'ici là, on voit également que les partis politiques aussi commencent donc à se donner de la voix, mm-hmm. que ce soit du côté de l'opposition ou du côté du parti au pouvoir. Donc tout est en marche, comme je l'ai dit, pour ces élections. Donc on espère quand même que les choses se passent très bien, hein, pour qu'il n'y ait pas encore... pour que l'opposition ne puisse pas encore dire et crier aux fraudes, hein, parce que je me dis, depuis la présidentielle de 93, c'est toujours l'éternel retour du même. On parle de fraude par ici et tout, donc ça n'honore pas le pays.
Voilà, donc deux élections au titre de l'année, les régionales et les législatives. Est-ce que nous passerons les unes après les autres, ou bien est-ce que on va les regrouper? Attendons les signaux que nous enverrons et le gouvernement et la CENI. Mais d'ici là, dans les landerons politiques, on commence par s'échauffer. C'est ce que les FDE, les Forces démocratiques pour la République, ont fait dernièrement à leur entrée politique. Et que nous rappelle la dépêche, les FDE qui appellent à la constitution d'un grand mouvement citoyen pour sauver le Togo. Décidément, le Togo ne manque pas d'appel pour le sauver, mais les sauveteurs ont continué à les chercher. Les FDR et puis cette information, Lumière pour un développement dans la paix. C'est le nouveau mouvement citoyen, pour ne pas dire nouveau mouvement politique, qui a été lancé hier.
C'est un mouvement citoyen.
Un mouvement citoyen.
Selon les responsables.
Bon,
si vous voulez, les gens
auraient pu avoir le courage de dire carrément que c'est un mouvement politique, parce que nous voyons comment ça commence. Ok, pour le moment, ils sont un mouvement citoyen.
Citoyen.
On s'en tient là et on verra bien la suite. La manchette également nous en parle. Lancement officiel de LDP. Les premiers responsables qui ont situé la presse. Et puis, autre sujet de la manchette, participation ou non aux prochaines élections, l'opposition à U et à DIA, ça recommence. D'abord, la LDP, ce nouveau mouvement citoyen qui vient d'être lancé, a pour l'un des premiers responsables, M. Ouro Tchagnaou Akpo, lequel s'est vu suspendu par son parti, l'ANC. Il y a deux semaines que nous en parlions, Sylvestre Béni.
Oui, je crois que le mouvement avait quand même convié la presse hier au centre Fopades à Goyivé, où il devait quand même lancer officiellement donc le mouvement citoyen, selon le responsable, je précise, le mouvement citoyen, parce que il disait en fait que c'est depuis novembre 2022, le 27 novembre 2022, je crois, c'est la mémoire fraîche, qu'ils ont donc déclaré ce mouvement au ministère donc, de l'administration territoriale avec un numéro d'enregistrement qu'ils ont quand même donné à la presse. Donc normalement, hier, ce devait être une conférence de presse de lancement officiel. Mais au dernier moment, cela n'a pas eu lieu comme ce devait, puisque les derniers échanges avec les autorités administratives ont permis quand même, ou ont contraint les responsables donc, à suivre la conférence de presse. Mais, séance tenante, ils ont quand même tenu à informer la presse que c'est officiel maintenant le mouvement, puisqu'ils ont rappelé quand même toutes les formalités administratives. Mm-hmm. Et donc, ils ont aussi remis à la presse une déclaration liminaire que nous avons publiée, l'intégralité, et demandent donc à ce qu'on puisse libérer les détenus politiques, ils demandent à ce que qui est plus donc d'amour, de réconciliation au Togo. Ils ont fait quand même 10 propositions à la classe politique pour que le Togo puisse quand même retrouver le socle donc d'amour pour que tout soit fraternel et tout.
Donc, là, voilà. C'est des actes citoyens pour les uns, politiques pour les autres.
Oui, ça dépend de l'angle. Vous voyez, ça dépend de l'angle. Pour certains, c'est un mouvement politique. Pour d'autres, c'est un mouvement citoyens, mais bon, on s'en tient à ce que disent les responsables pour le moment.
Pour le moment. Ah, justement, est-ce qu'ils ont pu situer leur nouveau mouvement citoyen par rapport à l'ANC pour ce qui concerne surtout M. Tchagnao Akpo, qui est l'une des voix de l'ANC ces dernières années?
Non, je crois que au cours donc des échanges, je crois que ça a été très bref avec les journalistes. Mm-hmm. Il n'a jamais été question donc de l'ANC. Je crois que le terme n'est même pas revenu. C'est vrai qu'il y a beaucoup donc de membres, d'anciens membres de l'ANC. Hein, il y a beaucoup d'anciens membres de l'ANC qui se retrouvent donc de ce côté-là. Mais comme c'est un mouvement citoyen, donc voilà. Sinon, je crois que le vocable ANC n'a pas été quand même...
Merci Fabrice. Nous sommes hier 7 mars 2023. Nous l'avons rappelé, nous sommes en pleine année électorale, législative, régionale. Et voilà, M. Ouro Tchagnao Akpo, et comme l'a dit Sylvestre Bini, d'anciens membres de l'ANC et bien d'autres qui se retrouvent dans un mouvement citoyen et ils posent des réclamations purement politiques. Même un sourd-muet aveugle devrait comprendre quelque chose.
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est le patriarche, c'est l'UFC. Et puis les descendants continuent toujours par se multiplier. Alors, quand un homme politique de la taille de Ouro Tchagnao Akpo lance un mouvement comme ça, il ne peut qu'être politique. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Parce que c'est la fameuse histoire de on te chasse de la maison et tu cherches à créer ta propre hutte. Et donc, je crois qu'il est en train de...
Ça rappelle un autre personnage de politique.
Ouais.
Pascal Obodina. En tout cas, c'est toi qui le dis.
Non, hein. C'est Pascal Obodina qui
est... Et généralement...
De la case familiale.
Familiale.
Des choses,
et généralement, dans ce genre de circonstances, ce n'est pas facile de se trouver un lopin de terre pour rapidement construire sa hutte. Bon, la preuve, ça n'a pas été facile. Mais de toutes les façons, je crois que, pour faire sérieux, je crois que Ouro Akpo Tchagnao a compris qu'avec la, même si on parle de suspension avec la ANC, c'est fini. Mais il faut s'organiser pour rebondir, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est quelqu'un qui a quand même une certaine assise. Pas dans l'ancienne législature, il avait remporté un siège pour l'ANC dans la région est centrale, notamment à Sokodé. Donc, il a naturellement un capital à ce niveau qui ne peut pas...
A priori,
qui ne peut pas peut-être se mettre sous éteignoir avec cette suspension-là. Forcément, il est en train de faire ses armes pour rebondir politiquement, cette fois-ci, en tant que leader de sa propre chose, puisque on l'a suspendu de l'autre côté. Pour moi, c'est une suspension qui tient lieu d'exclusion, qui ne dit pas son nom.
Ok, je rappelle juste que M. Ouro Akpo Tchagnao s'est vu signifier sa suspension de l'ANC il y a juste 2-3 semaines maximum, alors que dans le communiqué qu'il a remis à la presse hier, il dit que son nouveau mouvement a été créé depuis le 27 novembre 2022. Et que ce mouvement a déjà reçu un récépissé, enregistré plutôt. Hein, le mouvement créé le 27 novembre 2022 a été enregistré au ministère de l'administration territoriale de la décentralisation du développement des territoires le 15 février. Okay. Donc, des actes hein, qui précèdent l'acte officiel de sa suspension.
Qui précède sa suspension.
Ceux qui ont la logique dans la tête hein, pourront
oui,
faire.
Puisque hier aussi, il disait à la presse que ça fait plus de 3 ans. Ils sont donc en train de réfléchir sur ce mouvement citoyen. Et donc, ils pensent que c'est le moment venu donc, de lancer cela officiellement. Mm-hmm. Encore qu'en amont, il y a eu quand même des formalités administratives et tout concernant donc, le mouvement. Et donc, voilà.
Voilà, ainsi va la politique. C'est une bonne chose que les idées continuent à éclore. Et Fabrice, tu as mentionné qu'à l'origine de ces fragmentations se trouve l'UFC,
oui.
Laquelle UFC s'est encore illustrée cette semaine. Tu as sans doute pris connaissance de ce communiqué signé par Eliott O'Hill qui disait qui d'abord il y a une ou deux semaines avait réuni les siens à son bureau pour dire que il avait eu l'onction du patriarche Olympio pour gérer les affaires courantes jusqu'au congrès. Et puis hier, il a signé un communiqué pour se plaindre hein, que sur la transmission des informations de la CENI hein, à l'UFC, hein, Eliott O'Hill dit clairement que hein, les représentants de l'UFC à la CENI prennent en otage les informations de la CENI et il leur fait même le procès que ses camarades qui représentent l'UFC à la CENI s'apprêteraient à procéder à la désignation des candidats de l'UFC aux prochaines élections pour dire que la sérénité n'est pas encore revenue dans le résidu de l'UFC.
Oui, je crois que cette guéguerre-là, on l'avait eue avec ça, d'abord la désignation des membres de l'UFC à la CENI, on l'avait déjà eue. On avait constaté que beaucoup de choses avaient échappé à Eliott O'Hill, qui dit avoir eu l'onction du patriarche Gilles-Christ Olympio. Je crois que c'est un parti qui ne fonctionne pas très bien. Parce qu'en réalité, il ne revient pas, si on nous dit que c'est un parti politique, bon, il ne revient pas peut-être au premier responsable de choisir quelqu'un comme ça pour dire il faut forcément un congrès où on situe les uns et les autres. Donc c'est un peu la bataille avant l'heure par rapport à la succession de Gilles-Christ Olympio, qui aujourd'hui, avec le poids de l'âge, ne tient plus comme il faut, même s'il est, il a encore le souffle de vie. Et ça suppose, ça présage d'une fin même de ce parti qui n'existe que grâce à l'existence de Gilles-Christ Olympio. On sent qu'il n'y a pas la sérénité dans ce parti. Et si jamais on ne le souhaite pas, mais ça arrivera forcément un jour. Le bon Dieu rappelait le fondateur de ce parti qui est Gilles-Christ Olympio, ça partira en lambeaux forcément parce que les héritiers ne s'entendent tout, se bagarrent même avant le départ
du vivant même du patriarche.
Du vivant du patriarche. Et généralement, quand ça arrive comme cela, ça voudrait dire que le patriarche lui-même n'a pas réussi certaines choses. Parce qu'au moins de son vivant, il aurait fallu qu'on lui doit un certain respect et qu'on fasse semblant d'entretenir une certaine sérénité. Parce que quand de votre vivant, vos enfants se bagarrent déjà sur l'héritage, vous comprenez que vous avez raté, quoi.
Et puis, il y a un contraste vraiment saisissant. Sylvestre Bini, on termine par là. Monsieur Olympio, il est président de l'UFC. Mais actuellement même, c'est lui qui a le statut de chef de file de l'opposition. Alors, il se trouve absent à Lomé. Il semble avoir établi sa capitale avec ou sans guillemets à Accra, où il reçoit ses membres. Et chacun qui va le voir à Accra, de retour à Lomé, sort un communiqué pour me dire « Le président m'a dit ceci ». Le président m'a confié ceci et lui-même, il se terre dans un sourd silence qu'on a du mal à comprendre.
Non, moi je crois que c'est-à-dire que...